Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI. Avec en ce début de semaine, eh bien, la victoire du PSG face à l'OM. Mais une victoire gommée par l'inquiétude autour de Neymar. Le Brésilien s'est blessé et déjà le compte à rebours pour le 6 mars est lancé. Neymar jouera-t-il contre le Real de Cristiano Ronaldo? Neymar et Marquinhos, l'autre blessé de ce match. Ce match, un des sommets du championnat de France, plutôt décevant hier soir et surtout bien différent de la rencontre contre du Vélodrome en octobre dernier. L'OM là a sombré face à la MCN retrouvée. Et bonne nouvelle justement, on a retrouvé Kylian Mbappé. À Lyon, match nul dans un derby du Rhône intense, mais où une fois de plus l'OL a craqué en fin de partie. Les Verts relèvent donc la tête grâce notamment au revenant Mathieu Debuchy. Et puis un premier trophée pour les Citizens de Pep Guardiola, la Coupe de la Ligue, logiquement remportée par Manchester City face à une équipe d'Arsenal maladroite et finalement dépassée. Nouvelle démonstration de force pour les Mancuniens qui dominent déjà le championnat et qui joueront sur la pelouse des Gunners en milieu de semaine. Une équipe de Gunners aujourd'hui décrochée du Big Four. Et pour évoquer ces sujets, aujourd'hui notre ancien joueur de l'OM. Bonjour Marc Livra.
Bonjour Annie, merci de rappeler.
Merci beaucoup. Bah aujourd'hui, c'est.
Je comprenais pourquoi on m'a dit lundi, il faut que tu viennes lundi.
Voilà, on n'explique pas toujours tout avant, mais vous avez dû comprendre. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie.
Alors
bonjour
vous n'avez pas joué.
J'ai pas eu cette chance.
Ni à l'OM, ni en Angleterre, mais vous êtes nos spécialistes du foot anglais. Puis Patrick Juillard de Foot Africa 365.
J'ai joué en corpo, mais pas plus haut. Bonjour à tous.
Mais vous en savez déjà beaucoup sur le football et c'est ce qui nous intéresse. Et puis Hugo Moissonnier, bonjour Hugo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous étiez au Parc des Princes hier soir, vous allez nous raconter.
Et j'ai pas joué, moi.
Comme c'était chaud, et Bruno aussi bien. D'ailleurs y était, donc il y avait beaucoup de monde.
C'était très froid surtout.
Oui, ça c'est sûr, parce qu'il fait pas très chaud dans la capitale en ce moment. Radio Foot, c'est parti.
C'est dommage qu'à la fin, on a perdu un jour très important pour nous. C'était déjà gonflé tout de suite. Je suis pas de toi, mais je crois que pour mercredi, il va être pas disponible. Maintenant, il faut reposer et se préparer pour mercredi parce que c'est très important pour nous de continuer à gagner à domicile.
Le capitaine des Parisiens, Thiago Silva, le Brésilien aussi, qui a eu du mal à se réjouir à la fin du match, car aujourd'hui, eh bien, c'est la santé de Neymar et de sa cheville qui préoccupe comme hier soir à la fin du match et qui domine donc l'enjeu sportif du Classico qui s'est joué hier soir et s'est terminé, je vous le rappelle, par un sévère 3-0. Le génial attaquant brésilien, acheté à prix d'or au cours de l'été, vous le savez, est sorti sur une civière à la 77e minute de jeu, blessé donc à la cheville droite. Alors précisons, il s'est blessé seul, même si durant le match, il a reçu beaucoup de semelles, c'est ça? Marc ne veut pas confirmer, mais nous, on les a vus, il y a quand même eu beaucoup de cartons jaunes dans cette partie. Les dernières nouvelles, Hugo, quelles sont-elles?
Alors, si on en croit certains médias français, elles sont relativement rassurantes. J'ai cité Le Parisien, un quotidien français qui suit très près l'actualité du PSG, grâce notamment à notre ami Dominique Sévrac, qu'on salue, également le site internet Goal. évoque des nouvelles plutôt rassurantes donc après les examens passés à l'hôpital par Neymar hein, dans la foulée de la rencontre face à l'OM. Pas d'entorse grave, pas de fracture, mais il faudra, selon Goal.com, encore attendre quelques heures pour juger l'évolution de la blessure. Donc c'est rassurant et c'est dans la lignée de ce que disait hier en conférence de presse d'après-match Unai Emery, qui a évoqué une torsion, et puis de toute manière les joueurs qui ont vu Neymar dans le vestiaire évoquer hein, cette cheville gonflée. D'ailleurs, c'est peut-être un point qui peut pousser vers le pessimisme. Mais lui, Unai Emery, il était plutôt optimiste. Il a dit, certes, il y a une torsion, mais si vous me demandez de dire oui ou non quant à la présence de Neymar au Real Madrid, je dirais plutôt oui.
Marc, vous qui êtes, qui avez été joueur, quand on
se blessé à la cheville souvent.
Eh ben alors racontez-nous combien de temps ça peut durer.
Mais non, mais tout dépend de la récupération par rapport au joueur. Il y a des entorses bénignes où on fait un strap, on a mal et puis on joue.
Alors il a posté une photo ce matin, Neymar, de son pied évidemment strappé dans une gouttière. Enfin bon, le truc très
classique, ouais, très pour pas qu'il y ait de mouvement de la cheville.
Voilà.
Donc, pour qu'on se souvienne
un petit peu. Très spectaculaire, mais
non, mais après. Voilà, s'il n'y a pas d'arrangement, s'il n'y a pas de fracture, sous 10 jours, ça peut aller. Mais il aura des douleurs quoi qu'il arrive. Après, je vous le dis, quand on est footeur, à partir de 22-23 ans, on joue tous les matchs, on démarre les matchs avec des douleurs. Derrière la cuisse, le genou, la tête, le cou, dans la malle, partout. Donc voilà, il faut passer outre.
Cette blessure, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, non, je voulais simplement demander à Marc, parce que bon, la cheville, quand on dribble autant que Neymar, on est dans un jeu souvent en rupture.
Ouais.
Elle est importante quand même. C'est important d'avoir un peu de souplesse au niveau de cette cheville.
Surtout lui qui a une grande souplesse de cheville.
En plus, c'est une particularité de Neymar. Est-ce que alors qu'il veuille jouer malgré les douleurs, ça j'entends, mais est-ce qu'il pourra jouer dans son registre malgré cette douleur.
Il n'a pas le choix. Après, le plus important, ce sont les appuis. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément important de savoir s'il peut poser le pied, parce que s'il y a une gouttière, c'est qu'on veut protéger et garder sa cheville tranquille pour pas qu'elle force. Mais après, les appuis, enfin, bien qu'il les prenne s'il veut s'entraîner jouer. Après, on vous fait un strap. Croyez-moi, les straps qu'on vous fait aujourd'hui et qu'on nous faisait à l'époque, c'est quand même plate. Votre cheville, elle ne bouge pas. Et il faut passer cette douleur. C'est que mentalement, on se dit à ce moment-là, voilà, on sait qu'on a quelque chose qui va nous retenir le pied et on bouge pas. Donc si c'est la rotation externe, ils vont le faire dans l'autre sens. Si c'est pour interne, dans l'autre sens. En fait, ils vont vous soulager l'endroit où vous avez mal. Concrètement. Donc mais oui, ça m'est arrivé de jouer avec des entorses, ça m'est arrivé de jouer. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent tous les week-ends avec des entorses. Et on strappe. Il y a des soins, il y a de la physio, il y a plein de choses. Et après, il y a la proprioception pour renforcer, pour faire un renforcement musculaire qui est très important. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est renforcer pour pas qu'elle soit trop fragile.
De toute façon, on est parti aussi dans quelque chose. On est dans la com là.
Emery,
depuis le premier moment où il est venu en conférence de presse, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est plutôt un oui. C'est de la com vis-à-vis du Real Madrid.
Oui.
Ce que fait exactement le Real Madrid avec ses blessés, en disant aujourd'hui ils sont tous absents et puis ils sont tous présents le 6 mars.
Justement, donc, parce que tout à l'heure on l'entendait, Thiago Silva, quand il dit bon, de toute façon il sera pas là mercredi c'est un match de Coupe de France, c'est d'ailleurs un autre PSG-OM, et puis on sait qu'il y a un match de championnat la semaine prochaine, mais le compte à rebours, le vrai compte à rebours, on pense évidemment tous à ce match retour contre le Real Madrid le 6 mars au soir. Et alors justement, vous parlez de communication, aujourd'hui Zidane a été questionné lui aussi sur la blessure et il a dit, je n'aime pas quand un joueur se blesse. Il était d'ailleurs en train de regarder le match et il a ajouté, j'espère qu'il sera là lors du match retour. On ne se réjouit jamais d'un joueur rival absent pour blessure. Est-ce que c'est inquiétant pour le PSG, cette perspective?
Il faut pas, parce que si on commence à se dire dès maintenant qu'il sera absent, on joue le match avant de l'avoir joué. C'est-à-dire que là, on n'en sait rien, on ne sait absolument pas s'il sera sur le terrain. Visiblement, s'il n'y a pas de fracture, s'il n'y a pas d'ossement, d'arrachement d'os ou de ligaments, c'est que c'est plutôt bon signe. Et après, ça dépend de sa morphologie aussi. Il y a des joueurs qui récupèrent plus vite d'entorse de la cheville. Le fait que ça ait gonflé ou pas, on n'en sait rien. Enfin, ça change rien. Il y a des joueurs qui y enflent beaucoup plus que d'autres. Mais surtout, il faut préparer le match comme s'il allait jouer. Et en ayant un plan B, c'est ce que va faire Emery, forcément. Mmh. Moi, c'est sûr que le PSG sera plus fort avec Neymar que sans. Mais même sans Neymar, ils sont capables de faire quelque chose. C'est le collectif qui doit
activer. C'est ce qu'on imagine de cette équipe.
Il est aussi possible qu'ils soient éliminés avec. Donc,
oui, bien sûr. Bien sûr.
Je pense pas que ce soit si déterminant.
Ils ont perdu
que ça.
Avec
le
lui.
Le plan B, ils l'ont. C'est Di Maria, de toute façon, puisque là, on s'orientait vers un trio d'attaque, Mbappé, Cavani, Neymar. Maintenant, Neymar pourrait céder sa place à Di Maria si toutefois il ne pouvait pas jouer le 6 mars. Je pense que c'est pas ça qui change la physionomie principale du problème pour le PSG, c'est plutôt le milieu de terrain et qui va jouer en sentinelle. C'est ça le problème principal, et comment un peu coordonner les rôles au milieu.
Oui, si on sort du technico-tactique, mais je sais que Patrick est un puriste, il y a aussi un problème d'image. Le Paris Saint-Germain a recruté l'homme de la remontada l'an passé, Neymar. Vous l'achetez pour une somme colossale, plus de 220 millions d'euros. Quand vous avez un jouet aussi clinquant, c'est pour le montrer en huitième de finale.
C'est pas pour le montrer, c'est pour
Real Madrid.
C'est pas pour le montrer.
Si vous êtes éliminé, sans lui, parce qu'il s'est blessé un soir.
Mais c'est pas de la faute du PSG. Le PSG n'y peut rien. C'est
ni de la faute de l'OM apparemment,
ni de la faute de l'entraîneur non plus.
Moi, je dis simplement que
j'ai même vu certains reprocher à Emery de pas l'avoir sorti avant, de pas le faire sortir plus régulièrement quand le match est joué. Mais c'est hallucinant.
Oui, mais c'est pour ces grands matchs que vous l'avez recruté, Neymar.
Oui, mais alors c'est dans la période de Marseille. On le met dans un bloc de glace jusqu'au 6 mars et puis on attend et puis il joue aucun match.
Non, mais on peut doser.
Hugo, de toute façon, l'apport de Neymar, il va pas se mesurer uniquement en huitième de finale. Si le PSG est éliminé avec ou sans lui, l'opération Neymar aura été un bide de toute façon. Elle n'aura pas permis au PSG de franchir le palier espéré. Donc qu'on le mette
ou pas. Elle aura été un bide, mais il y a quand même Mbappé qui a été aussi recruté pour très cher. Oui, hier, on va y venir. Il a été bien. Marc, un dernier mot sur ça.
Non, mais moi je suis pas d'accord avec Bruno. Ça s'appelle avoir de la gestion de groupe face à une équipe de Marseille qui a été nullissime hier. Est-ce qu'on a besoin de voir Neymar sur le terrain en seconde période? Oui, là je suis d'accord. Le Qatar, il faut l'exposer, faut le faire les grilleries. Mais on n'a pas besoin. Il y a un match important, c'est le 6. Faut arrêter les bêtises. Oui, là, on me dit, on est inquiet pour mercredi. Mais vous rigolez, mais même ça. Neymar, mais même, je sais pas, on fait jouer Nkunku, il va être meilleur que les joueurs marseillais.
Bien sûr.
À ce moment-là, il faut savoir gérer. À un moment donné, Emery aurait dû le sortir, parce que rappelez-vous, l'année dernière, Zidane sort Cristiano Ronaldo. Écoute, tu vas te reposer parce que tu vas me faire gagner. Emery ne sait pas le faire. Et on a vu encore une fois qui commande.
Qu'il voulait le sortir à la 80e,
c'est Neymar.
Il se blesse juste
mais c'est
avant,
pas possible, 80e. Ils ont besoin de lui.
Ils
jouent tout le temps. Bruno, il joue.
Il avait déjà fait les trois chances.
Il joue tout le temps.
C'est logique que les meilleurs joueurs jouent tout le temps.
Surtout qu'il s'est blessé tout seul.
Mais pas contre Marseille, une équipe à 20%.
En plus, voilà, il aurait pu se blesser bien avant sur des tacles, tous les contacts qu'il a eu, les coups qu'il a eu.
On y reviendra de toute façon à Neymar parce qu'on a 9 jours encore pour en parler. Mais il y a peut-être une blessure qui est plus gênante, Patrick, c'est celle de Marquinhos, parce que Neymar, il n'est pas allé tout seul hier soir à l'hôpital américain de Neuilly. Il y avait aussi le défenseur Marquinhos, et ça, on l'a su bien après. Hein. Hugo, vous qui étiez au stade, ça s'est su après. Lui, il aurait une douleur à la cuisse.
À la cuisse. Effectivement, Marquinhos.
Est-ce que c'est plus préoccupant pour ce qui est de la défense, puisque on se souvient des choix d'Emery?
C'est un tout, c'est-à-dire que le PSG est plus fort en attaque, donc l'absence de Neymar, même sans Neymar, le PSG peut avoir une ligne d'attaque très forte. Si en revanche on enlève Marquinhos, sachant que Thiago Silva était un peu fragilisé par l'entraîneur au match aller en étant sorti du 11 titulaire, c'est un peu ça, là pour moi c'est plus grave effectivement si on n'a pas Marquinhos.
On y reviendra là aussi hein, parce que on va quand même revenir sur ce match. Marc a déjà anticipé. Nous on parlait de match décevant. Vous êtes encore plus sévère. Les Parisiens ont réussi à marquer dès la 10e minute, c'était par Kylian Mbappé. Ensuite, il y a eu un deuxième but. Alors, c'est presque un but de Neymar, mais c'est contre son camp de défenseur
Rolando. Il a remarqué contre le PSG, c'est quand même pour le PSG.
Et puis il y a aussi le but de Cavani. On peut se dire donc la MCN est de retour, et c'est vrai qu'une nouvelle fois depuis l'arrivée des Qatariens à Paris, eh bien l'OM n'a pas gagné le Classico, et les Parisiens eux n'en ont pas perdu, mais ils en ont gagné encore un. Et l'OM semblait hier soir sans réaction. Adil Rami le confirme un peu à votre micro, Hugo. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression d'entendre.
Je suis super déçu, c'est normal pour un classico de perdre 3-0, ça fait toujours mal. Mais après, peut-être que j'ai une mauvaise analyse, mais en tout cas, voilà, elle m'appartient et moi je suis fier de mes coéquipiers. On est venu ici au parc en essayant de développer du jeu. On a quand même essayé de presser haut. Ils ont trouvé l'espace dans notre dos et ça a fait. Voilà, ils ont été très lucides. J'ai pas trouvé cette équipe très agressive, ils ont eu un petit peu de possession, je pense, ils ont eu la possession, mais je pense qu'ils ont été super lucides et ils ont marqué leur peu d'occasions qu'ils avaient, donc bravo à eux.
Des Parisiens super lucides et Marseille, qu'est-ce que vous diriez alors?
Je pense que les Marseillais se sont vus un petit peu trop beaux. Hier soir, j'ai vu la conf de presse de Rudy Garcia qui dit...
La marche était trop haute.
Mais Annie, il a fallu quoi pour il voit pas que depuis 2011 c'est un fossé qui se creuse.
Était au match au mois d'octobre au stade Vélodrome et ce jour-là on a eu l'impression que l'équipe avait été très bien préparée, qu'elle s'était bien préparée et même mentalement là hier soir on n'avait pas la même impression.
C'était une équipe qui était prévue quoi qu'il arrive au Vélodrome d'en prendre soi-disant 3 ou 4, rappelez-vous. Et face à cette équipe du PSG, Marseille, tous les joueurs étaient à plus de 100%. Ils ont fait énormément d'efforts, ce qui n'a pas été le cas. Quand on voit les déclarations de Dimitri Payet il y a 48 heures, de Germain il y a 48 heures,
provocateur,
je me dis, c'est même pas provocateur, c'est que si on peut se permettre de faire ça, faut être un très très grand. Mais pas de dire ça. Il faut faire profil bas. Et en plus, Rami, que Hugo a rencontré, il nous explique, notre coach a dit, il faut qu'on essaye de jouer. Tu veux essayer de jouer contre le PSG?
J'imagine peut-être, Patrick, que c'était allusion au premier match de cette équipe de Marseille entraînée par Rudy Garcia, quand ils avaient fait un match nul ici
en mettant
au parc,
deux autobus devant les buts.
Et on leur avait beaucoup reproché. Alors, il y avait eu, je crois, zéro frappe cadrée.
Que Marseille ait essayé de jouer et eu une certaine ambition, on peut pas leur reprocher, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas du tout mis l'intensité requise pour ce genre de match qu'ils avaient fait très bien au Vélodrome au match aller. Mais là, si on regarde le rendement des joueurs, même Luis Gustavo qui tient un peu l'équipe au milieu a pas été extraordinaire. Zambon Anguissa a été correct, voire un peu mieux, mais c'est pas lui le leader technique de toute façon. Et
on
surtout, les leaders offensifs, dont déjà Rudy Garcia a fait le choix de ne pas mettre Sanson. Il a mis Ocampos à la place.
Bon, il l'a mis au bout d'une demi-heure.
Il l'a enlevé.
Mais qui avait été très bon à l'aller.
Ça reste quand même pas un joueur de
dans
foot.
Dans un registre,
qui ont été inexistants, quoi.
Ouais, mais Bruno,
pourquoi? Est-ce que c'est parce que, alors certains se demandent s'ils avaient joué la Ligue Europa durant la semaine, jeudi soir, mais en même temps, Thauvin avait été préservé, Payet, il me semble. Voilà.
Annie, à l'aller, ça avait été pareil. Ils avaient joué trois jours avant, ils avaient joué à Ligue Europa aussi face au PSG. Donc c'était pareil, c'était les mêmes conditions.
La différence avec l'aller, c'est que l'aller, déjà, Marseille joue au Vélodrome, ils ont le soutien du Vélodrome. Le PSG, honnêtement, avait pris le match un petit peu au-dessus de la jambe. Ils étaient nettement moins, enfin, ils étaient pas à leur niveau. Et le truc, c'est quand le PSG joue à son niveau, il y a personne qui peut rivaliser. Et que si, en plus, l'OM est pas à 100%, et là, il était clairement pas. Alors, effectivement, il y avait pas l'agressivité, il y avait pas l'intensité. Et les trois devant, à un moment donné, quand ils sont pas capables de garder le ballon dos au but, parce que Thauvin, il dit, il faut un collectif fort pour être bon individuellement. Mais je suis désolé, quand vous ratez tous vos contrôles, le collectif peut être bon, ça sert à rien.
Énormément de pertes de balles.
Mais
effectivement.
Oui, et Payet, c'est pareil, il était inexistant. Donc, il y a trop de faillites individuelles et collectives. Et voilà, et s'ils sont un petit peu en dessous, bah, face au PSG, forcément, il y a une trop grande différence.
Donc, je pense que le Paris Saint-Germain a été plus appliqué que
plus au match aller. La
défense a été plutôt bonne. On a parlé de l'attaque marseillaise plutôt à fond hier. Et Thiago Silva, on en parlait. Vous disiez qu'il était peut-être fragilisé par l'épisode madrilène, mais hier, il a plutôt répondu présent. Par exemple, Thauvin a été bien muselé par la défense.
Même Kurzawa était parisienne. Pas mal aussi.
Oui. Ils sont pas inquiétés.
C'est rare pour le signaler.
Ils n'ont pas forcément été inquiétés, puisque à un moment donné, on ne sait pas si on avance ou si on recule. Les Marseillais, on ne savait pas. Ils étaient complètement perdus. On s'est retrouvé à voir Germain essayer de faire des tacles ou de faire. On l'a jamais vu faire ça. Donc, je pense qu'ils se sont vus trop beaux. Et malheureusement, quand on se voit trop beau face à une équipe de Paris qui, pour moi, je vais être gentil, à 50%, ils en mettent que 3. Parce que s'ils te prennent au sérieux, t'en mettent 6. Ils en mettent que 6
parce
ou 7.
Parce que quand Adil Rami dit ils ont été réalistes, dès qu'ils accéléraient, il y avait une grosse différence.
Tu as vu Mbappé deux fois. Alors, il va vite, Mbappé. Ouais. Mais pour Rolando, c'est plus possible. Ouais.
Justement, est-ce que c'est une des satisfactions de ce match pour ce qui est du PSG? Alors, on a vu le PSG, il a dominé quand il a fallu. Quand il y a eu 3-0, on a eu la sensation qu'ils savaient mieux gérer leur match. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir vu qu'il y a Mbappé, il marque le premier but et c'est vrai qu'on a vu une entente aussi. Neymar, à un moment, qui fait la très belle passe à Cavani pour marquer son but. Est-ce que ça, c'est une des satisfactions du match?
Oui, Mbappé, là, sur ce match, j'ai trouvé qu'il était plus sobre et plus juste dans son jeu. Il cherchait pas totalement toujours le beau geste, mais il cherchait à être efficace et ça a fonctionné. Bon, c'est pas encore. Il a pas retrouvé ce petit côté imprévisible et un peu feu follet qu'il avait à Monaco l'année dernière. Maintenant, il doit un peu se réinventer pour un peu sortir de l'emprise de Neymar qui était un peu la sienne ces derniers matchs. Là, on l'a vu un peu faire du Mbappé au lieu de faire du sous Neymar. C'est bien.
Ouais. Hugo?
Oui, puis quant à la relation Neymar-Cavani qui a été pas mal décriée ces derniers temps, certes, il y a la belle passe décisive à la 55e qui amène le beau but de Cavani, mais Cavani, au moment où on siffle la mi-temps, c'est 5 ballons touchés. Neymar n'a jamais vraiment cherché Cavani en première période. Il n'y a pas une relation technique optimale entre les trois devant.
Parce que Neymar, à un moment donné, il ralentit énormément le jeu. Moi, je veux bien qu'il provoque sans arrêt ses adversaires.
Il attend,
il est debout face à un avec le ballon, il attend que l'adversaire vienne, et les joueurs l'ont dit, hein, je crois que c'est Amavi qui l'a dit, c'est énervant, c'est agaçant, c'est plus que de la provocation. Et je pense, c'est une provocation, et en plus, ça ralentit le jeu de son équipe, et ça fait du mal à Cavani, qui a besoin d'être dans le rythme, d'avoir des passes rapides, en première intention, il les reçoit jamais, Cavani.
Eh bien, voilà pour ce qui est d'un match qu'on oubliera peut-être rapidement, Marc.
Il y en a un autre qui arrive rapidement. Hein.
On mercredi, il y en a un autre au match et J-9 pour la Ligue des Champions. Donc, on aura l'occasion de reparler du PSG. On se retrouve juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La suite de Radio Foot International sur RFI avec Marc Libra, Patrick Juillard, Bruno Constant et Hugo Moissonnier. On va rester un tout petit peu sur ce match encore d'hier soir pour s'arrêter sur un personnage important qui était dans le 11 titulaire, dans le 11 de départ, Hugo. C'est Lassana Diarra, l'ancien Marseillais, passé entre-temps par d'autres clubs et qui rejouait face à son ancienne équipe.
Qui a plutôt livré une performance assez satisfaisante, Lassana Diarra. Alors, son abattage défensif, on va dire, en tout cas à la récupération, ça on le connaissait. On a également évoqué le fait que l'OM n'avait pas été très dangereux, mais peut-être que la bonne performance de Lassana Diarra a participé à la bonne performance d'ensemble du PSG en défense. Et puis il a été plutôt pas mauvais dans les phases offensives, on va dire. En tout cas, il a joué vers l'avant, il a réussi 9 passes, toutes les passes plutôt qu'il a tentées dans le camp marseillais, ça fait 9 en tout, et je crois que c'est le 100% de passes réussies dans le camp marseillais, c'est le seul Parisien qui a réussi ça hier, donc il est aussi capable d'apporter des solutions vers l'avant.
Moi, j'ai trouvé par rapport au précédent match où il avait été utilisé, qu'il était plus rapide dans les transmissions, on l'avait vu un peu faire plusieurs touches, se retourner sur lui-même, être un peu, pas emprunté, mais un peu lent. Et là, je trouve qu'il a retrouvé la qualité de passe, le côté plus fluide qu'il avait dans ses bonnes années, dans ses années de grande forme. Et puis, bon, avec Rabiot, qui a été pas mal aussi, c'était vraiment les deux qui ont tenu le milieu du PSG. Lo Celso était un ton en dessous, notamment dans l'intensité sur ce match.
Mais là, ce que tu décris, Patrick, c'est juste que physiquement, il va mieux.
Oui.
Tout simplement, c'est que physiquement, ça y est.
Il monte en puissance.
Il commence à prendre du poil de la bête. Et c'est bien parce que, encore une fois, c'était un bon pari à 50% avec Lo Celso qui a traversé le match tranquillement comme s'il se passait rien puisqu'on l'a presque pas vu. Rabiot a été très bon comme d'habitude, mais c'est vrai que Diarra a ce rôle de catalyseur devant votre défense centrale. Il est très important parce qu'il est capable de faire une dizaine de mètres, de vous fermer un côté. C'est souvent des rôles un petit peu invisibles comme à l'époque de Deschamps où on disait Deschamps on le voit pas, on le voit pas, mais ce qu'il est capable de faire, vous savez, c'est ce travail de l'ombre qui peut permettre à des joueurs de pas recevoir, de faire le décalage. Et hier il est sorti un petit peu de ses fonctions, 2-3 fois il est sorti très très haut, il est allé chercher et ça prouve que physiquement il se sent de mieux en mieux et ça apporte au PSG un petit peu plus de liberté puisque Rabiot dit, il mange qu'à la ligne médiane, donc du coup, puisque Mota me le fait pas, allez, je vais gagner 4-5 mètres, je me projette, et en fait, ça fait monter tout le bloc, et tout le monde est gagnant dans cette histoire, donc je suis pas étonné par rapport à ça à dire.
C'est ça, et moi je pense dans l'optique du Real Madrid, je pense d'ailleurs qu'il sera très intéressant parce qu'il est capable de combler sur les côtés, et quand on a Dani Alves et Kurzawa qui devraient peut-être débuter, j'espère qu'il débutera face au Real, deux joueurs qui peuvent monter sur les côtés, c'est bien d'avoir Lassana Diarra. Parce qu'il est capable de jouer comme un troisième défenseur central. Physiquement, quand il est en forme dans les duels, il est excellent. Il est rapide. Il a l'expérience de ces matchs-là. Il a joué dans les grands clubs. Il peut vraiment apporter.
Rappelons-le, Lassana Diarra était arrivé au Paris Saint-Germain dans les derniers jours du mercato. C'est pour ça que, en plus, il venait de l'étranger et manquait un peu de rythme. Vous dites Kurzawa, il avait pas joué le match aller. C'était Berchiche qui était à sa place. Il y avait beaucoup de critiques autour de Kurzawa hier soir. Un Kurzawa meilleur encore.
Ouais,
peu sollicité quoi.
Mais Thauvin, le meilleur joueur de l'OM, n'a pas existé dans la zone de Kurzawa.
Mais c'est autant de la faute de Kurzawa que de celle de Thauvin qui n'était pas dans le coup. Enfin bon.
Et il est impliqué sur le deuxième.
Par contre, offensivement, c'était bien. Non, c'était une bonne copie de Kurzawa, mais il faut pas tirer de conclusion sur un seul match quand même.
Bon. Et pour le match de mercredi, qu'est-ce qu'il faut attendre, Marc? Est-ce qu'on peut imaginer un match très différent puisque là, on avait un match de championnat? Et on aura un match à élimination. Ça veut dire que ici au Parc des Princes, l'OM jouera une qualification en demi-finale. Hein, si je me trompe pas, c'est huitième ou huitième. Alors en quart de finale de la Coupe de France.
Je vois pas qu'est-ce qui peut se passer pour les Marseillais parce que le niveau de certains joueurs reste le même, à part de s'accrocher et d'être un petit peu dans.
Ils se réservaient pour ce match-là?
Ah non, pas du tout. Ah, non, ils se préservaient pas. C'est juste que l'état d'esprit n'a pas été forcément bon. Là, peut-être que ça peut leur faire une petite piqûre de rappel en se disant, parce que depuis quelques, rappelez-vous, Marseille n'a perdu que 4 matchs cette saison. Moi qui suis tous les matchs de Marseille.
Et depuis le début de l'année, hein, c'était le deuxième.
Ouais, voilà. Non, mais c'est inquiétant quand même. Quand on voit le niveau de jeu de certains joueurs, c'est que la Ligue 1. Donc il faut bien se dire que le Paris, on le sait, on est sur une autre planète. Et après, il y a 19 équipes qui se battent comme ils peuvent. Que ça soit Lyon, que ce soit Monaco et tous les autres. Donc mais Marseille avait oublié. Ils se sont dit, la plupart étaient persuadés d'aller faire un coup à Paris. Mais un coup à Paris, aujourd'hui, on peut pas le faire. Donc.
Puis on peut pas s'attendre à voir Paris laisser passer la coupe, hein, parce qu'ils veulent au moins le triplé. Et ils vont faire tourner, je pense, à certains postes, donner du temps de jeu, notamment peut-être à plus à Di Maria ou à d'autres.
Et Pastore.
En vue du Real Madrid.
Qui peut jouer aussi, t'imagines.
Et tout ça en vue du Real, mais toujours avec l'optique de gagner, d'aller encore rafler un trophée. C'est le minimum qu'ils peuvent faire maintenant, un triplé en dehors de la Ligue des Champions, si ça se passe mal.
Donc, précision, Hugo, c'est un quart de finale de Coupe de France.
Votre première intuition était la bonne.
N'est-ce pas,
mais Hugo a vu Adil Rami hier soir. Il a vu Adil Rami.
Avec toutes ces coupes, on s'y perd.
Ils en ont parlé hier soir. Passons à l'autre match chaud du championnat d'hier soir. C'était donc juste avant et c'était le derby Lyon-Saint-Etienne avec un match qui encore n'a pas réussi à rassurer les Lyonnais. Pourtant, l'équipe locale au Parc OL avait si largement gagné, on s'en souvient, au match aller. Alors là, c'était la débandade du côté de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Ils avaient perdu 5-0. Et bien là, cette équipe de Lyon n'a pu arracher qu'un match nul 1-1, rattrapé au score, surtout à la dernière minute de jeu. Un résultat amer qui a laissé Bruno Genesio bien désolé.
On est inquiet quand on prend 2 points sur 15. Si on n'est pas inquiet, c'est qu'on n'est pas responsable. Maintenant, je suis inquiet, mais je suis aussi confiant. Je crois que tout est possible encore. Il reste 11 matchs et il y a encore plein de choses qui peuvent se passer. Maintenant, il faut reprendre une bonne dynamique. C'est le plus important, regagner un match en championnat parce que c'est ce qui est le plus important pour la suite.
Marc, la prestation de Lyon hier soir, comment vous la jugez? Parce que finalement, ils sont repris au score à la fin du match. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression qu'après un très beau but de Mariano en première
super but,
mi-temps,
d'ailleurs.
On a eu l'impression que peu à peu, ils reculaient et qu'ils s'éteignaient.
Oui, mais c'est le Lyon depuis quelques semaines. Ils sont incapables de jouer 93, 94 ou 95 minutes. Ils oscillent entre 30, 40 minutes. Les deux blessés, que ce soit Touzard à la mi-temps qui sort, petit souci, et Raphaël ont un petit peu modifié la donne aussi. Fekir qui n'a plus forcément le rendement. Faut pas oublier que Lyon, pareil, de septembre à décembre, a vécu sur Fekir, qui a été énormissime. Et que là, malheureusement, il est fatigué. Il est à court. Il est d'ailleurs sorti encore une fois, petit pépin physique. Et puis après, le meilleur joueur du monde, Ndombele, à War, qui sont des... Non, mais c'est, faut arrêter avec ça. Ce sont des gamins, ils font deux matchs. On vous annonce l'équipe de France. Certaines chaînes parlent de ces joueurs-là. Il faut les mettre en équipe de France, mais il faut arrêter. C'est pas faire des cadeaux. C'est pas bien, quoi. Et à l'arrivée, on croit que c'est arrivé. C'est vrai, on bat Paris sur un exploit personnel de Memphis, qui depuis, il est inexistant, mais c'est normal. Il joue tous les 7, 8, 9 matchs.
Il a été bon, quand même.
On est d'accord, mais ça, c'est encore une compétition. Ça prouve bien que peut-être qu'il choisit ses matchs. On nous a sorti un mug en nous sortant, mais enfin, on est dans le délire le plus total. On oublie les vraies valeurs. Il faut travailler. Et malheureusement, Lyon aujourd'hui ne travaille plus forcément dans le bon sens. Chacun fait son petit numéro. Et tu as bien vu que face à Villarreal, on les voyait inquiets. Et puis finalement, 3-1, 1-0, ils sont répondus présents. Et puis en championnat, tout va bien. À Lille, tout va bien. Et puis à l'arrivée, c'est catastrophique. Et c'est que Saint-Etienne mérite. Et je suis content que Cabella et Debuchy, qui ont été les deux meilleurs Stéphanois, arrivent à marquer.
On va y venir aux Stéphanois, mais une interrogation quand même sur ce Lyon qui à chaque fois réussit à mener et se fait rattraper. Là, une fois encore, ce défaut. Est-ce que c'est un problème de défense?
Est-ce que c'est
l'absence de Fekir?
Pour moi, sur le match d'hier, il faut quand même. Je suis pas du genre à taper sur le coach à bras raccourcis, mais il faut souligner quand même le plantage tactique de Bruno Genesio qui a sorti vers la 70e minute, qui a fait rentrer Diakabi pour renforcer sa défense. Donc
et
on
passé
mène 1-0 à domicile,
passé
on passe à 5 derrière,
voilà.
En plus en mettant un jeune défenseur qui est pas un gage de sécurité extraordinaire, qui est pas techniquement extraordinaire, ça envoie un message très anxiogène à l'équipe et en plus ça fait jouer l'OL sur son point faible, à savoir la défense, alors que bon an mal an, l'OL reste, même si ce que dit Marc est vrai, même si les joueurs sont un peu usés, ça reste quand même une équipe qui est meilleure offensivement que défensivement. Donc si vous renforcez la défense, vous jouez sur votre point faible et à la fin, bah, vous subissez trop, vous laissez le ballon et vous vous, vous faites rejoindre. Il s'en est fallu d'une minute, mais un match dure 90 minutes.
Juste une petite digression, c'est vrai que, rappelez-vous, Cavani sort, on fait rentrer Meunier, donc on décale un défenseur et Zidane réagit rapidement. Là, Gassé, très intelligent. Qu'est-ce qui fait rentrer Ntep à Mouma de suite?
Voilà.
Donc, non, mais c'est terrible. Et pendant 20 minutes, ils vont devoir subir. C'est le message, certes,
on donne
tu sais
le
pourquoi
bâton
je tape.
Pour se faire battre.
Oui, mais quand tu as ces deux blessés, c'est pour ça que je te parle des deux blessés sur la première période. Si t'as pas ces problèmes-là avec Raphaël et Touzard, qui est un très bon joueur, qui devant la défense est très bon, peut-être que tu calcules différemment. Mais et là, c'est vrai que sur ce coup-là, ben, là, c'est vrai que ça a pêché.
Bruno, cette équipe de Lyon, vous la voyez comment?
Je vais être honnête, j'ai pas vu le match parce que le match a été en même temps que Arsenal-Manchester City.
C'est vrai. Et dont on va parler dans un instant.
Mais en même temps, ce qu'on me dit de Lyon, ça me rappelle tout ce qu'on a vu cette saison, c'est que c'est pas une équipe qui est capable de gérer un résultat.
Voilà.
Et c'est une équipe qui va très vite vers l'avant, qui est même omnubilée par l'attaque et qui est incapable de gérer, de savoir faire tourner, ce qui est très important d'ailleurs en Coupe d'Europe. Même à Villarreal, c'était parfois compliqué. Ils se sont fait peur parfois au match aller, pareil. Et ils arrivent pas à gérer. Et ça, à un moment donné, ça doit venir du coach. Ça doit venir dans l'approche, à un moment donné, de savoir les temps forts, les temps faibles d'un match, il faut savoir les contrôler.
Est-ce que ça serait aussi un effet psychologique après cette victoire depuis le Paris Saint-Germain? On a du mal à les retrouver, finalement, ces joueurs de l'OM. Bruno Genesio le dit, là, 2 points sur 15 en championnat.
Ouais, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du relâchement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'usure physique aussi. Ouais. Parce que l'équipe ne tourne pas beaucoup quand même. Il n'y a pas un effectif extensible.
Il y a beaucoup de jeunes.
Il y a beaucoup de joueurs très jeunes que Genesio hésite encore à faire rentrer sur des matchs entiers. Et quand ils rentrent sur des bouts de match, ils mettent un peu de temps. Bref, peut-être qu'il faudrait leur laisser des matchs entiers contre des équipes plus faibles pour. C'est difficile, hein, notamment en défense, quand on voit des joueurs comme Diakabi, bon, autant laisser des titulaires tout le temps.
Après, j'espère juste qu'ils ne sont pas dans une phase où ils se disent on va aller chercher la Ligue Europa parce que la finale est chez nous. S'ils font ça, je pense qu'ils ont tout faux parce que ils sont en train de partir sur ce délire-là. Puisque on a vu qu'en Ligue Europa ils sont capables de faire les efforts ensemble, alors qu'en championnat, parce que hier il y a quand même 1-0, il y a deux occasions où Marcelo et Traoré se la jouent solo encore une fois, ce qu'on avait déjà vu à Lille, et que d'ailleurs le coach avait crié énormément en disant j'ai que des solos individuels. Voilà, donc attention.
Mais... Alors Saint-Étienne, on parlait de Saint-Étienne, qu'on a vu hier, c'était Mathieu Debuchy, parce que c'est lui qui marque le but, mais on l'a beaucoup vu aussi pendant le match, c'est un joueur qui revient de loin, on peut dire, qu'il a été blessé en 2016, il avait un peu disparu, et là il revient, et avec un niveau qui fait du bien à Saint-Étienne, Patrick.
Mathieu Debuchy, l'été dernier, avait été proposé à l'OGC Nice, qui avait acheté à la place, plutôt recruté à la place Christophe Jallet. Maintenant, aujourd'hui, Christophe Jallet, qui a fait une dizaine de matchs au début, s'est blessé. Il est blessé pour un certain temps. Ouais. Et Debuchy, au contraire, renaît à Saint-Étienne avec un entraîneur qui sait très bien l'utiliser.
Qu'il l'a utilisé en équipe de France quand il était adjoint de Laurent Blanc.
Un système qui lui va bien. Et ce but, c'est la cerise sur le gâteau de ce retour réussi. Et on peut y envisager s'il continue d'enchaîner de telles performances.
Attention à ce que tu vas dire.
Ben non, on peut envisager de le voir dans les 23 à la Coupe du Monde.
Je le savais.
Pourquoi? C'est la vérité.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est quand même un garçon qui a pas eu de chance, qui aurait dû être titulaire à l'Euro 2016, se blesse avant et qui derrière Arsenal, ça se passe très très mal. Il en a gros sur la patate vis-à-vis de Arsène Wenger, qui lui a fait aucun cadeau, qui aurait pu le relancer par moment ou qui aurait pu le prêter.
Il aurait mérité qu'il le relance
plus souvent. Et il a perdu son temps depuis un an et demi. Et là, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Il faut lui donner un peu de temps. C'est un joueur qui a de l'expérience en plus, qui a joué en équipe de France. Donc il fera du bien. Et je suis d'accord. Je pense qu'il peut peut-être prendre ce petit strapontin pour le.
Ça rappelle un peu, si on doit faire une comparaison avec ce qu'on voit dans d'autres clubs, un peu, ça me rappelle un peu Lassana Diarra finalement, un joueur qui a pas joué pendant une bonne année et qui revient.
Pas pour les mêmes raisons quand même.
Oui, pas pour les mêmes raisons, mais là il revient au même moment en grande forme.
Bon, mais dans le championnat de France, on commence à en voir souvent. De plus en plus souvent.
Les moyens d'acheter des
joueurs qui renaissent.
On relance
sous un maillot.
Des joueurs plus âgés.
En tout cas, signalons et bien que Saint-Étienne est à la 12e place. Bon, eux qui ont frôlé les places de relégables, pour l'instant, ça va un peu mieux. Lyon est donc 4e, mais déjà à 5 points de Marseille.
Mais par contre, ils ont une grosse avance sur le 5e. Donc...
Oui, mais, non, mais on sait que ça se joue entre ces trois-là. Mais le problème, 11 points même. Mais après, il y a Marseille et Monaco qui se tiennent 57-55. Et avec la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, un Marseille-Lyon qui promet aussi.
C'est plus tard.
C'est plus tard.
Ah oui, fin mars, je crois.
Oui, ça sera juste après les grandes échéances européennes. On va passer à l'Angleterre, ça vous plaît, Bruno ?
Mais toujours. Well, the week which started with egg on their faces ends with a trophy in their hands. Pep Guardiola's first trophy in English football too.
C'est important. Bien sûr, il y a des titres plus importants encore, mais on est tellement contents. Mes félicitations vont à tout Manchester City, à nos patrons bien sûr, et à nos fans en particulier.
Pep Guardiola au milieu de ses joueurs champions, un premier titre et sans doute le premier de beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Je vous regarde, Bruno.
Je pense, oui.
Hier à Wembley, les Citizens ont donc remporté le premier titre de l'ère Guardiola, qui est là depuis un an et demi. Alors, à juste titre, parce que cette équipe, on va y venir sur ce match, on dominait les adversaires d'Arsenal. Ouverture du score sur un très joli lob de Sergio Aguero.
Oui, surtout une grosse erreur de Mustafi, défenseur d'Arsenal.
Très peu là.
Plus la sortie d'Ospina qui
un
n'a
but.
Pas.
Ouais. D'ailleurs, un but qui m'a surpris parce que il évoquait vraiment le kick and rush à l'ancienne, alors que Pep Guardiola est l'apôtre du jeu à une touche de balle en passe courte
Et Guardiola
assez étonnant.
A été honnête, il dit de toute façon, il y a toutes les manières possibles pour marquer un but. Et lui, il était très content.
Surtout sur une longue transversale comme ça. Mustafi, juge mal.
Ensuite, serait cru revenu dans les années 90.
C'est simple le football quand c'est joué comme ça.
Ensuite, il y a eu l'inusable, on peut dire, Vincent Kompany, qui malgré les blessures est toujours là et marque un but.
On est tous heureux pour lui, sauf les supporters d'Arsenal évidemment, mais c'est quand même un garçon qui est capitaine, qui est leader charismatique de cette équipe, qui est au club depuis 10 ans, qui n'a joué finalement que 326 matchs, donc vous faites le calcul pour sur 10 ans, c'est pas beaucoup, et qui a connu 41 blessures à City. Et c'est un garçon qui est constamment blessé, qui a des problèmes musculaires au mollet. Et c'est dommage parce que quand il joue à ce niveau-là, c'est sans doute l'un des meilleurs défenseurs de Premier League. Et il était décisif dans un match qui compte, une finale. Et puis petite anecdote quand même, Guardiola qui n'est pas monté pour soulever le trophée, recevoir sa médaille, il a préféré rester sur la pousse pour voir ses joueurs monter tout seul. Il disait que il était honnête. Hein, il dit c'est pas un trophée qui compte énormément. Mais c'est le premier.
Le 23e de sa carrière à lui.
Le 23e, et puis il a quand même disputé 11 finales de coupe avec tous ses clubs. Il en a remporté 10 quand même.
Il se permet de rester sur la pelouse. Le troisième but a été marqué par David Silva. Vous vouliez.
Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à Vincent Kompany. Il était là un peu au départ du projet Manchester City Made in Abu Dhabi. Il a toujours été un peu un ambassadeur parce qu'il a toujours cru en ce projet. Il a toujours chanté ses louanges dans la presse. Et donc c'est un symbole finalement de le voir remporter un trophée avec le Manchester City et Guardiola qui enfin entre guillemets convainc les puristes à qui après son entrée dans le rang des grands clubs européens quoi.
Ouais, enfin attention, hein, City ils ont déjà été deux fois champion d'Angleterre quand même avec lui.
Oui, mais longtemps le projet a été mal vu, trop d'argent.
C'est vraiment le projet européen là, et s'ils seront champions, je pense qu'il y a aucun doute, c'est bien, mais voilà, City a déjà été champion avec Mancini, avec d'autres, avec Pellegrini, c'est pas là le nouveau projet Guardiola. Le projet Guardiola, c'est gagner en Ligue des Champions et aller au moins atteindre la finale.
Le nouveau but des clubs et notamment des clubs qu'on dit nouveaux riches, cette Ligue des Champions, disons sur une autre planète. Alors les Gunners face à eux, très maladroit, peu efficace. Pourtant on a vu Pierre-Emerick Aubameyang par deux fois au moins, il aurait pu marquer. Mais
notamment un duel avec Kompany qui revient sur lui extrêmement vite, mais non. C'est Arsenal, tout ce qu'on connaît d'Arsenal, qui a pas de leader charismatique, qui a pas de capitaine, qui défensivement est toujours aussi fébrile. Et on se répète depuis des années, des années, des années.
il y a pendant le match, il y a le Karine Neville qui commentait le match sur pour Sky, qui à un moment donné est abasourdi, il hallucine de ce qu'il voit. Ils sont menés 2-0 et les joueurs d'Arsenal marchent. Il y a 4 joueurs qui sont alignés, ils marchent tous. Et c'est pas normal, on peut pas marcher quand on joue une finale à Wembley. Arsenal, c'est ce qui de se hisser en finale, c'était une chose magnifique. Mais quand ils arrivent le jour J en finale, même si c'est City, il y a pas de honte à perdre contre City. Mais la façon dont ils ont joué, c'était une honte absolue pour leur public, ils sont tous partis quasiment après le deuxième but, en laissant Wembley à moitié vide.
Et puis on a vu Wenger un peu perdre ses nerfs face à Guardiola.
Ça c'était le début de match.
Ouais, mais d'accord, mais ça fait partie un petit peu
Parce qu'il y a un but pour lui, il y a hors jeu sur le deuxième but.
Mais on sent qu'il a perdu un petit peu le.
C'est la fin.
Donc reste à savoir maintenant comment on va organiser sa sortie de manière à ce qu'elle soit honorable et classe, quoi, entre guillemets. Mais ça paraît compliqué.
Le problème, c'est qu'il est sous contrat, qu'il répète
qu'il veut rester
jusqu'en juin 2019.
Il a toujours été au bout de ses contrats et le board a peur de le voir partir. Mais là, tout le monde est d'accord à Arsenal maintenant, il faut qu'il parte. Il faut vraiment qu'il parte parce que le club s'enfonce de plus en plus dans les abysses de la Première Ligue.
Justement, ils sont sixième là. Alors, ce match, évidemment, c'était une finale de Coupe de la Ligue. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que jeudi soir, les deux équipes se retrouvent parce qu'on a un Arsenal-Manchester City sur la pelouse cette fois d'Arsenal. Avec un Arsenal qui est sixième. Bon, alors pour l'instant, ils ont 8 points de retard sur Chelsea. Mais évidemment, ils ont un match de retard. Mais Manchester City qui est si loin là, comment peut-on imaginer que Arsenal tienne en échec Manchester City alors qu'on a vu Wigan, hein, qui est d'une autre catégorie, d'une autre division.
C'est un contexte un peu différent, mais
ça avait été un coup de.
C'est compliqué.
Sort.
Là, je pense que c'est même plus en termes de résultats, c'est en termes de.
Est-ce que c'était à cause des absents?
Non.
Mkhitaryan qui pouvait pas jouer ce match, la Gazette qui
est
blessée.
Parce qu'il y a eu trop de joueurs qui étaient très loin du niveau que requiert Arsenal et ce niveau-là. Et on l'a vu aussi en Europa League contre Östersund, les Suédois. Ils ont gagné le match aller 3-0. Ça devait être une formalité au match retour à l'Emirates. Ils sont menés 2-0 au bout de 25 minutes. Enfin, c'est juste scandaleux.
Ils se sont fait très peur. Oui.
Elle est capable de se faire battre par n'importe qui. Et là aujourd'hui il faut du changement. On n'est même plus dans la fin de saison, parce que je pense que la quatrième place ils l'auront plus. La seule manière, c'est de remporter l'Europa League, c'est leur seule petite chance comme United la saison passée. Mais il y a de plus en plus de voix aujourd'hui qui se portent pour que ça soit Thierry Henry qui succède à Arsène Wenger, parce que Arsenal a besoin d'idées nouvelles. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit jeune, qui soit ambitieux, qui est fin, qui a envie de bousculer tout ça. C'est sans doute peut-être trop tôt pour Henry, mais à un moment donné, il faut changer quelque chose et peut-être lui donner le bébé, lui donner 2 ans, 3 ans, qu'il rebâtisse quelque chose et que ça reparte, quoi.
Quant aux Citizens, on voit que la greffe a pris, on peut dire. Hein. Pep Guardiola réussit avec le temps, parce qu'il a mis plus d'un an, mais jouer l'équipe comme il veut, et apparemment les joueurs aussi y prennent plaisir. Est-ce qu'on peut se demander si ça va devenir finalement le Barça de la Première Ligue, cette équipe de Manchester City?
C'est ce que disent les médias anglais, ils les appellent déjà les New Kings of England, donc les nouveaux rois d'Angleterre qui vont rafler les prochains trophées, que ce soit les coupes nationales et puis championnats. Faut pas aller trop vite en Angleterre. Ils vont être champions, c'est une certitude, mais il y aura forcément une revanche de Manchester United qui a de gros moyens. Il y aura forcément une réaction de Chelsea qui sait très très bien rebondir, même après les échecs. Ils sont cinquièmes pour le moment, mais je pense que la saison prochaine ils seront encore au rendez-vous. Et puis il y a un des clubs qui montent comme Liverpool et Tottenham, il faut pas sous-estimer, quoi, un peu moins de moyens, mais qui visent juste en termes de transfert, qu'on devrait vraiment des bonnes équipes et qu'on est surtout des bons entraîneurs. Donc c'est l'Angleterre, chaque année on remet tout à zéro et voilà.
Oui, ces dernières années c'est jamais le même champion.
En fait, on voit pointer un peu une rivalité entre des clubs complètement mondialisés comme les deux Manchester et des clubs qui gardent une culture vraiment club, la culture du blason,
un
comme Liverpool
anglaise,
ou Tottenham, avec plus de valeur et de joueurs anglais aussi dans l'effectif. Donc c'est intéressant de voir cette polarisation nouvelle dans la Première Ligue.
Pas trop d'accord avec Bruno, parce que pour moi City a vraiment pris énormément d'avance, alors qu'aujourd'hui entre Liverpool, Tottenham, Chelsea,
sur
mais
cette
dans
saison,
le jeu mais voilà, l'année dernière il a mis quelque chose en place, cette année ça tient la route. Je pense que on va pas arriver le PSG et le reste du monde en France, mais City est très impressionnant. Je pensais pas voir un club anglais aujourd'hui prendre autant de plaisir à les voir jouer.
Ils sont clairement au-dessus.
Les tableaux de la presse anglaise annoncent ça. Peut-être que pendant 2-3 ans on risque de les voir, et je sais pas qui derrière, parce que Tottenham,
la puissance financière des rivaux est importante.
Ils peuvent réagir financièrement vraiment sur le recrutement et
regarde United, et ils ont fait n'importe quoi. United,
United a quelques joueurs près, ils peuvent se rapprocher de City. Après City, il faut qu'ils maintiennent ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont capables aussi de maintenir ce niveau-là?
Vous parlez de plaisir, Marc parlait de plaisir à regarder City.
Ah bah oui,
parce qu'il y a le style et la manière.
Bien sûr, c'est le Barça de Guardiola des années 2008-2012.
Comment c'est ça, United, c'est pas vraiment du Barça.
Ils préparent qu'un match. On parle de Luis Enrique comme possible successeur de Conte à Chelsea, donc peut-être qu'on aura un duel de tiki-taka en première ligue la saison prochaine, si ça se concrétise. Hein. Moi, c'est ce que j'ai lu un peu partout.
Ouais, c'est une des pistes en tout cas. Voilà. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est les joueurs de City qui en parlent le mieux. C'est qu'ils prennent du plaisir à l'entraînement, ils prennent du plaisir pendant les matchs. Et ils adorent jouer le jeu prôné par Guardiola. Ils expliquent tous que c'est très compliqué.
Ils ont mis du temps à s'y mettre.
Il a fallu un an. Finalement, c'est pas si énorme que ça, un an, hein, pour digérer tout ça. Après, faut voir s'ils sont capables de l'appliquer en Ligue des Champions, s'ils sont capables d'aller gagner la Ligue des Champions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, savoir s'ils sont capables de l'appliquer sur des matchs à enjeu, matchs aller-retour, de quart de finale, demi-finale.
Ce qui est intéressant, c'est que la presse anglaise a l'air de saluer ces nouveaux rois, comme vous dites. On se souvient qu'en Allemagne, ça avait été un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on reprochait à Pep Guardiola de finalement vouloir mettre le modèle du FC Barcelone au Bayern et ça l'avait un peu...
Mais parce qu'il avait dénaturé le jeu du Bayern qui était un jeu beaucoup plus vertical et ça passait un peu moins et surtout le Bayern devenait aussi un peu ennuyeux avec ses possessions.
La différence aussi c'est que le Bayern est un club qui gagne depuis des décennies des trophées presque tous les ans
et le Bayern a une histoire,
qui a une identité, une culture club impressionnante, alors que Manchester City, sans être désobligeant envers les supporters de ce club, c'était une coquille vide. Manchester City,
bien sûr.
Et donc, c'est beaucoup plus malléable, il peut en faire plus ce qu'il veut, et c'est pour ça que ça peut marcher mieux qu'au Bayern.
Et puis le Bayern, il a repris un Bayern qui était champion d'Europe en titre, donc c'est jamais évident. City, effectivement, c'est une nouvelle page qu'ils sont en train d'écrire, même s'ils ont déjà été deux fois champions en trois ans, 2012-2014.
À l'échelle, sur le plus long terme, c'est un club beaucoup plus jeune et beaucoup
Mais il a surtout révolutionné le jeu en Angleterre, en fait, c'est surtout ça. Et on a parlé beaucoup de Wenger qui avait révolutionné l'approche du jeu quand il était arrivé.
On a parlé aussi de Conte quand il est allé à Chelsea et qui a un peu l'année dernière changé la manière de jouer de certains clubs.
Ouais, il avait changé la manière de jouer, voilà, le système avec cette défense à 3 et aujourd'hui c'est vraiment une manière de jouer et de repartir de derrière avec Ederson leur gardien et de se faire des passes et d'attirer l'adversaire dans leur surface de l'aspirer pour les mieux les contrer. Et on voit de plus en plus d'équipes en Angleterre faire ça maintenant.
Eh ben, on y reviendra alors, Bruno, et vous nous raconterez comment ça va se passer du côté de la Première Ligue. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Louis Lafargue était m'a aidé à préparer l'émission. Nicolas Benita à la réalisation.